Parmi les textes proposés aujourd'hui à la lecture du jour, figure celui que nous allons lire maintenant. Il s'agit d'un extrait du livre des Romains, de l'Épître aux Romains, le chapitre 12, les versets 1 à 2. Mais avant de lire cet extrait, nous prions. Éternel Dieu, merci pour l'héritage des Écritures. Permet que nous le recevions et que nous nous en nourrissions. Toi, tu connais nos besoins, tu nous connais. Alors, je t'en prie, par ton Saint-Esprit, fais que ta parole soit entendue et reçue selon ta volonté. Amen. Romains 12, les deux premiers versets simplement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Faire un culte raisonnable à Dieu. C'est la thématique que Paul choisit de partager avec les Romains. Et faire un culte raisonnable à Dieu, cela équivaut pour lui à offrir son corps comme un sacrifice vivant. Alors, même si on ne comprend pas totalement de suite ce que cela peut bien vouloir dire, dans les faits, on pressent bien que offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est une affaire sérieuse. C'est quelque chose qui engage. C'est une affaire qui engage sérieusement, on le pressent bien. Mais pour bien comprendre les propos de Paul, sans doute est-il nécessaire de préciser, de repréciser, ce que signifie faire un sacrifice. Un sacrifice, d'une manière générale, c'est une offrande faite à une divinité pour l'honorer ou pour se la concilier. Et ce qui est offert, c'est souvent une victime mise à mort ou des objets abandonnés ou brûlés sur un autel. Avec l'idée du sacrifice est associée l'idée de don ou d'abandon. Et en analysant les propos de Paul, plusieurs remarques viennent à l'esprit. On relèvera, par exemple, tout d'abord la particularité de l'offrande ou de l'expérience qu'évoque Paul. Il s'agit ici d'un sacrifice vivant. Il n'est donc pas question de mise à mort, ou en tout cas, pas de mise à mort physique du corps. Ainsi, s'il y a mort, ou si la mort a une part dans le sacrifice dont parle Paul, alors cette mort se situe sur un autre plan. Un sacrifice vivant, c'est bien ce dont parle Paul, et c'est ce à quoi il nous exhorte. Et ce qui est certainement à relever aussi, c'est le fait que le sacrifice vivant en question est présenté dans les propos de Paul comme un acte raisonnable. Pourtant, parler de sacrifice vivant, c'est faire allusion à un engagement important, un engagement radical. Et un sacrifice vivant, c'est une réalité qui pourrait apparaître comme insensée, hors de propos ou démesurée. Mais l'apôtre Paul, un homme pourtant connu pour être intellectuellement éduqué et jouissant même d'un haut niveau de culture et d'instruction académique, lui en parle comme d'une expérience raisonnable. Dans son discours, cela fait sens et cela peut être légitimé par la raison. Alors, ce qui justifie peut-être ce renversement, cette requalification de quelque chose qui aurait pu apparaître déraisonnable en raisonnable, ou de repoussant à désirable, ce n'est bien sûr pas simplement lié à l'acte lui-même. Ce qui suscite cette requalification, c'est plutôt à voir ou à chercher du côté de l'identité du destinataire du sacrifice. En réalité, la valeur de la personne pour qui le sacrifice est réalisé est plus grande, plus importante que l'acte du sacrifice lui-même. Et c'est en cela que même la radicalité de l'offrande d'un sacrifice vivant peut paraître raisonnable. Plus que la vie de notre corps, ce qu'il nous est demandé de laisser ou d'offrir sur l'autel du sacrifice, c'est notre volonté, ou plus précisément peut-être notre volonté de faire sans Dieu. Notre prétention à une autonomie, voire même notre orgueil à penser que nous pourrions nous en sortir seuls, que sans lui, sans Dieu, nous pourrions mieux vivre en comptant sur nos propres forces, nos propres ressources. Ce sont ces pensées-là, ces perspectives qu'il nous faut abandonner sur l'autel pour accepter qu'elles soient réformées, transformées par l'Esprit de Dieu en des choses, des pensées bonnes, agréables, parfaites selon Dieu. Le geste d'offrande, le sacrifice auquel Paul nous exhorte, est synonyme d'abandon, de don de soi à Dieu. Ce geste signifie d'une part l'adoption d'une posture d'humilité et la reconnaissance de la pertinence de cette posture devant Dieu. Un peu dans les mêmes termes que Jean-Baptiste utilisait face à Jésus, ce sacrifice peut être une façon de dire « il faut que je décroisse et qu'il croisse ». Il faut que dans l'espace de ma vie, en moi, le Seigneur ait ou prenne de la place, qu'il ait la plus grande part, qu'il ait de l'espace, de quoi s'établir et demeurer. Oui, pour le dire autrement, le sacrifice vivant est un acte de louange. C'est un sacrifice de louange par lequel il s'agit de se mettre à la juste place devant le Seigneur, ou bien de le mettre, lui, à sa juste place devant nous. Et reconnaître la juste place du Seigneur, c'est reconnaître la place première qu'il occupe sur la terre, dans le monde et dans nos vies, si on l'y autorise. La louange, on peut l'envisager comme une porte ouverte à notre initiative, et qui rend possible une rencontre avec Dieu. Car en effet, lorsqu'on accepte, lorsqu'on ose, dans la simplicité de notre cœur, s'avancer vers Dieu, avec pour bagage et pour moteur la louange, il y a de fortes chances qu'en réponse à notre mouvement de cœur, lui aussi s'avance vers nous et nous rejoigne dans cet espace ouvert pour lui. Si l'on prépare un espace d'accueil pour le Seigneur, il aime venir l'habiter. Il aime venir y siéger. La louange véritable, ce n'est rien d'autre qu'un espace de vérité, un espace de sainteté où Dieu prend plaisir à demeurer. Le psalmiste le proclame : Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ainsi, si la louange implique don de soi à Dieu, elle représente aussi, à l'inverse, un temps ou une part de don de Dieu pour soi. La louange est donc une expérience précieuse. Elle est un espace de rencontre, un espace de communication, de communion possible avec l'Éternel. Il suffit pour cela de s'y engager pleinement. Alors, dans la simplicité, laissons-nous rejoindre, laissons-nous travailler et transformer par l'Esprit de Dieu, et que de nous retentisse une louange bonne, agréable au Seigneur. Que son Esprit, pour cela, nous soit en aide. Et comme Paul le propose cette fois dans la lettre aux Hébreux, nous pourrions nous dire que nous pourrions offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen.
Buona calla tina sofa nanaye, buona calla tina sofa nanaye, sofa nanaye tina sofa nanaye, sofa nanaye tina sofa nanaye, buona calla tina sofa nanaye, buona calla tina sofa nanaye, sofa nanaye tina sofa nanaye. Buona calla tina sofa nanaye, buona calla tina sofa nanaye, sofa nanaye tina sofa nanaye, sofa nanaye tina sofa nanaye. When he comes high, shall be like him. When he comes high, shall be like him. No more pain, shall be like him. Oh.